Thorsten, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Antoine Volodine, porte-parole de Manuela Dreger, qui publie 11 rêves de Suie aux éditions de l'Olivier. Pour nous, la figure de l'écrivain est celle d'un déguenillé inconnu en train de mourir. Pour nous, la figure de l'écrivain est celle d'un insane qui a tout perdu, y compris la possibilité inouïe de se taire. Voilà trois soirs que nous sommes ensemble, Antoine Volodine, pour parler d'une polyphonie, mais en parler d'une seule voix, la vôtre. Vous nous avez expliqué qu'il s'agissait pour vous de créer une sorte de fiction polyphonique, un travail de création romanesque, qui est un travail de construction, avez-vous dit, avant tout, et qui passe par l'affirmation de plusieurs voix d'auteurs, des hommes et des femmes. On en a eu un exemple hier, puisqu'il s'agissait de parler du livre de Lutz Bassmann, Les Aigles Pus, publié chez Verdier. Et ce soir, on en a un autre avec le troisième livre, en fait, que vous publiez en cette rentrée, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi écrivain que vous publiez sous votre nom aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie. Là, il s'agit du livre de Manuela Dreger, 11 rêves de Suie, aux éditions de l'Olivier. Alors, contrairement à Lutz Bassmann, qui avait déjà deux livres chez Verdier, celui-ci, de Manuela Dreger, est le premier, à ma connaissance, qu'elle publie pour les adultes, parce qu'il y a des livres d'elle qui ont été publiés pour un public de jeunes lecteurs, à l'école des loisirs, si je ne me trompe pas. Hein, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Voilà.
C'est bien ça.
Mais là, Manuela Dreger franchit un pas en publiant ce livre aux éditions de l'Olivier, qui se rattache au post-exotisme, où on a déjà eu l'occasion d'ailleurs de la croiser, puisque vous en parliez dans ce livre qui est le livre théorique du post-exotisme, le post-exotisme en Dibson, leçon 11, qui date déjà de 1998. Hein. Manuela figurait dans un inventaire fragmentaire des dissidents décédés.
Alors, en fait, oui, vous l'avez souligné, Manuela Dreger n'est pas du tout une nouvelle venue dans le paysage littéraire français. Et j'aimerais dire trois mots sur sa production à l'école des loisirs, parce qu'elle est considérable. En fait, elle a écrit 9 petits livres, qui sont tout à fait particuliers de son écriture, qui appartiennent entièrement à notre édifice post-exotique et qui ne sont pas des livres pour enfants. Alors, en fait, bien sûr, des enfants peuvent lire ces livres. On se retrouve, des enfants et des adolescents, parce que c'est dans une collection de l'École des loisirs qui est pour adolescents, enfants et adolescents. Et je pense que on pourrait rajouter enfants, adolescents et adultes pour le lectorat visé par ces textes de Manuela Dreger qui sont parus depuis 2002 et qui donc font d'elle un écrivain qui a déjà de la bouteille, qui existe dans le monde éditorial de façon forte. Alors, bien sûr, l'École des loisirs, c'est publier à l'École des loisirs des livres post-exotiques. C'est un peu comme au début de ma production personnelle, lorsque je publiais dans une collection de science-fiction des livres post-exotiques. On me disait, tu écris de la science-fiction, vous écrivez des livres qui ne peuvent être classés que dans la science-fiction, et puis, peu à peu, et puis même brusquement, le même type de livre s'est trouvé édité aux éditions de Minuit, donc sans transition du point de vue stylistique. Là, je pense qu'il y a une transition du point de vue stylistique, mais qui correspond uniquement à des choix de qui, avant, à l'École des loisirs, étaient ceux de Manuela Dreger, consistant à ne pas mettre en scène l'horreur, à ne pas choquer les jeunes lecteurs par la présence immédiate et clairement lisible de la mort, de la souffrance, de l'horreur. En revanche, on pourrait établir une continuité très grande entre ces livres et « Onze rêves de suie », qui paraît effectivement dans ce qu'on va appeler la littérature à part entière, ou je ne sais pas comment on qualifie la littérature par rapport à celle de la littérature pour enfants. Bon, enfin, là, il n'y a aucun doute sur l'étiquette. Bien entendu, on va retrouver le même monde qui est marqué par une grande désinvolture par rapport au réel, par une attirance pour le merveilleux, pour le conte, puisque dans « Onze rêves de suie », une partie importante qui rythme les histoires est consacrée à des contes pour enfants, qui sont pour enfants, mais là aussi des contes pour adultes, puisqu'il s'agit de donner des leçons de bolchevisme aux petits qui écoutent.
Parce qu'il y a, et on ne l'a peut-être pas souligné les soirs précédents, une dimension politique évidente dans le post-exotisme qui apparaît comme une espèce de post-communisme.
Alors pour Manuela Dreger, la dimension commence dès la première page, cette dimension politique, puisque le premier chapitre est consacré à la description, la préparation de la Bolsho Pride dans un monde qui est un monde miséreux, un monde de ghetto et de camps, où les habitants, une fois par an, préparent la seule lumière qui va apparaître dans leur vie morne et sordide, c'est la fête de la Bolsho Pride.
Après l'échec de la Révolution mondiale.
Après, bien sûr, l'échec de la Révolution mondiale, après l'échec de, on le voit dans le texte par allusion de deux unions soviétiques, puisqu'il est question d'une nostalgie de la première Union soviétique, puis une nostalgie de la deuxième Union soviétique. Même chose d'ailleurs pour il est question de la première révolution culturelle chinoise et de la deuxième révolution culturelle chinoise. Donc on est dans un temps indéfini, mais qui est marqué par son passé d'échec et de défaite complète de la révolution mondiale et de tout, et alors également de tout humanisme, puisque le monde n'existe que entouré de barbelés.
Sous la forme d'interdits et d'interdictions. La Bolshoi Pride, par exemple, est une manifestation interdite.
Bien sûr. Alors, la Bolshoi Pride est une manifestation interdite. Et dans l'histoire, dans 11 rêves de suie, elle se termine très très mal cette année-là, qui est celle du livre, puisque un groupe de jeunes va se retrouver à la suite d'une action, on va dire, d'une action gauchiste, va se retrouver piégé à l'intérieur d'un bâtiment qui est incendié. Et c'est à partir de cet endroit en flammes que les participants vont, les personnages vont raconter leur vie, se remémorer leur enfance, particulièrement, parce qu'il s'agit de jeunes. Et là aussi, la patte de Manuel Adreguer est très nette. Son intérêt, bien entendu, c'est de reprendre des personnages dans un monde adulte, mais son intérêt affectif, affectueux, va vers les très jeunes et va vers les petits, puisque dans un chapitre long et central, il est évoqué, et d'ailleurs à plusieurs reprises, l'enfance de ces jeunes adolescents en train de périr carbonisés.
Et qui se remémorent les contes de leur enfance.
Alors, ils se remémorent leur enfance, qui est une enfance de ghetto, de dortoir, de peur, de répression, de bombes aussi. Et ils se remémorent les adultes qui leur ont raconté des histoires, et en particulier la mémé Holgold, qui est une sorte de personnage qu'on retrouve très souvent dans le post-exotisme, la grand-mère immortelle, qui représente la rigueur bolchévique increvable, et qui va leur raconter, une figure haute en couleur dans les textes, on le voit, et qui va leur raconter les histoires de l'éléphante Martha Ashkarot, qui traverse des existences successives en mettant en scène, dans les contes qui la mettent en scène, en mettant en scène des petits moments qui conduisent à réfléchir à l'échec de la révolution, à l'échec de l'humanité, à la fin de l'humanité.
Nous sommes donc manifestement dans une sorte d'après-communisme, mais néanmoins, est-ce que le communisme n'est pas le nom archaïque d'une pensée qui serait tout entière à venir?
Est-ce que vous pouvez développer votre question?
Par exemple, quand est raconté le soldat Schumann, qui expose un concentré de marxisme populaire, matiné d'influence bouddhiste.
Oui, alors ça, il s'agit toujours d'humour. Il y a une distance par rapport à l'horreur et à l'horreur historique, et cette distance, elle ne peut exister que parce que les personnages sont en situation très inférieure socialement, et parce qu'ils sont en train de vivre un destin horrible, ce qui leur permet de penser au passé et de penser au présent d'une façon sans tabou. Et donc, je me suis perdu dans ce que je voulais dire.
Ben vous vouliez dire que le communisme fait partie de cet humour du désastre, sans doute.
Ah oui, le personnage de Schumann qui donc mélange totalement les préceptes, le dogme communiste élémentaire, avec les précieuses vérités, les diamantins préceptes, etc., et qui fait réciter à ses élèves dans cette classe absurde dont il est l'instituteur, comme dans le premier maître, il fait réciter les cinq précieuses différences entre socialisme et communisme, enfin ce genre de choses.
Les sept principes de la dictature révolutionnaire et les huit étapes pour arriver à une société sans classe. Et la société sans classe, évidemment, ça fait partie de l'humour.
Oui, alors, bien entendu, il est le porte-parole, là, de cette espèce de mélange idéologique dans lequel baignent ces personnages, qui, néanmoins, en dehors de toute confusion et en dehors du décor de répression absolue et de camp dans lequel ils vivent, continuent à porter en eux quelque chose qui survit et qui est une croyance à laquelle on ne croit pas en même temps, une espérance sans espoir, et qui porte ce nom de égalitarisme ou de communisme, si vous voulez, mais qui s'exprime dans la Bolshopride où on défile dans les rues en se référant uniquement à des personnages du passé, sans plus du tout savoir ce qu'ils ont fait historiquement. Ce qui compte, c'est leur moustache ou le ruban rouge qu'ils ont autour du bras. Mais ce n'est pas du tout une théorie politique. Mmh. Et on retrouve cette nostalgie d'un temps où tous ces signes avaient un sens. On le retrouve très fortement dans Manuel Adreger, qui est, à mon avis, parmi les auteurs post-exotiques, l'auteur qui a le plus de nostalgie du monde soviétique, de l'Union soviétique, de la première Union soviétique. Et d'ailleurs, à la fin du livre, hein, les personnages, ces adolescents qui sont en train de mourir dans l'incendie, vivent un moment merveilleux, un moment fantastique. Ils sont transformés en cormorans étranges, en oiseaux qui vivent dans les flammes, qui vivent infiniment dans les flammes, sans, avec le temps arrêté. Et dans ce cadre-là, ils trouvent, dans le dépôt qui est en train de brûler, ils trouvent un vieux tourne-disque, et ils mettent un disque. Et c'est une chanson de Lyudmila Zykina, qui est une chanteuse soviétique lyrique qui est morte l'année dernière et qui a une voix absolument splendide et qui évoque à elle-même, par sa voix, par les échos radiophoniques qu'on peut avoir de sa voix, qui évoque toute l'atmosphère de l'Union soviétique. Mmh. Et cette éternité qui va être marqué par la voix de cette chanteuse, c'est toute la nostalgie de Manuel Adreger pour le monde soviétique.
En attendant, ici, le parti traverse une sérieuse crise. Et tous ces jeunes gens sont condamnés par lui pour maladie infantile et appartenance à plusieurs catégories puantes.
Alors, les catégories puantes, comme vous le savez, c'était une liste qui avait, pendant la Révolution culturelle, été établie pour établir la liste des ennemis. On avait plusieurs catégories. Et la neuvième catégorie puante, qui est toujours celle dont mes personnages se réclament, c'était les intellectuels. Et donc, non seulement ces personnages sont écrasés, mais ils sont fiers d'appartenir à une classe d'écrasés. C'est une spécificité de notre humour.
Ce que vous appelez les gueux.
Les gueux, voilà. On est fiers d'être gueux. On est fiers de ne pas être maître. Parce que finalement, même d'un point de vue très schématique, il y a le bien et le mal. Il y a les gueux qui représentent le bien et les maîtres qui représentent le mal. Il vaut mieux être dans le camp des gueux, des Untermenschen, plutôt que d'avoir le pouvoir. C'est un peu cette leçon permanente qui est remuée, ruminée par tous mes personnages. Et tout à l'heure, on parlait du parti. Bien sûr, dans ce livre, dans 11 rêves de suie, le parti n'existe plus. Il n'existe plus depuis des siècles. Mais
Il exclut encore.
On fantasme sur son existence et on fantasme sur les procès qu'il peut continuer à instruire.
Oui, parce que Mémé Holgold les a défendus devant le parti, ces jeunes gens qui ont été condamnés. Et elle n'a pas réussi à éviter leur exclusion, même en plaidant bec et ongles leur cause. Pourtant, elle leur dit de ne pas perdre espoir. Dès que la révolution mondiale aura triomphé, leur dit-elle, je vous ferai réintégrer dans la gueusaille de base du parti. Ayez pas peur.
Oui, c'est d'autant plus amusant qu'elle s'adresse à des morts. Elle s'adresse à des poupées qui représentent ceux qui ont péri dans l'incendie.
Et là, il y a un procès posthume.
Voilà.
Et oui. Ça nous permet de souligner l'importance dans vos livres, pas seulement dans celui-ci, pas seulement dans ceux que vous ne signez pas de votre nom, de l'interrogatoire comme forme.
Dans ce livre et dans les livres de cette rentrée littéraire signée par des auteurs post-exotiques, il n'y a pas d'interrogatoire à ma connaissance, sinon dans Écrivain. Le petit garçon qui écrit et qui est devenu un vieil écrivain se fait interroger par deux malades mentaux et battre dans le cadre de cet interrogatoire. Mais c'est vrai que l'interrogatoire est une figure récurrente, c'est une technique récurrente pour faire accoucher de l'histoire, pour faire accoucher du passé. Mais dans la mesure où celui qui interroge ou celle qui interroge sont des ennemis, ce qu'on va raconter du passé, ça sera imaginaire, ça sera de la fiction. Donc l'interrogatoire est une machine à fiction, une machine à produire du mensonge devant l'ennemi et éventuellement, pour le plaisir du lecteur et de la lectrice, du mensonge et de la beauté et de l'histoire.
Mmh. Est-ce que l'ennemi n'est pas la solitude? Cette effarante solitude qu'on peut braver à plusieurs?
Justement, dans 11 rêves de suie, Manuela Drecker met vraiment en évidence, dès la première ligne, l'inexistence de la solitude. Tu es en train de brûler, je vais à toi, mes souvenirs sont les tiens. Et cette très belle affirmation va courir tout au long du livre où ceux qui sont en danger, ceux qui sont en train de mourir, vont échanger leur corps, vont échanger leur nom, vont perdre leur identité pour rejoindre une sorte de communauté définitive des exclus et des écrasés qui prend une forme magique puisque tous ces humains vont devenir des oiseaux magiques que sont les cormorans étranges qui vivent à jamais dans les flammes. Si, parce que le temps s'arrête dans une magnifique seconde ou horrible seconde.
Il y a donc un monde nouveau dans ce roman.
Le monde nouveau qui est décrit d'un bout à l'autre.
Prendre un nouveau corps.
Alors, on peut prendre un nouveau corps, mais à condition de mourir, à condition de rester dans la dernière seconde d'agonie. C'est ce qui se passe pour tous ces personnages. Le monde proprement dit, dans un des contes de la Mémé Holgold, est un monde qui s'écroule. C'est un monde sans survivants. C'est un monde où l'humanité est réduite à quelques dizaines d'individus qui errent sur la planète au milieu d'une planète d'ailleurs qui a retrouvé ses formes agréables, avec une végétation luxuriante et un ciel bleu. Et l'éléphante Martha Ashkaroth vit dans un des chapitres de la fin, elle vit la fin du monde. Alors le monde nouveau, c'est un monde sans humain, et c'est un monde qui se défait au niveau de sa texture, qui disparaît pour devenir une dernière image simplement.
Donc
c'est pas vraiment l'avenir radieux.
Non, c'est le malheur qui a le dernier mot.
Alors là, on touche au pessimisme fondamental d'auteurs comme Manuel Adreger ou Lutz Bassmann.
Que je partage,
qui est un pessimisme face à l'histoire humaine et au fait que le XXe siècle, qui était le siècle où tout aurait pu basculer, vers le beau, vers le bien, vers l'intelligent, a été un ratage complet, et maintenant c'est trop tard. Voilà.
Et le grand problème de tous ces jeunes gens qu'on croise dans le livre de Manuela Dreger, c'est la mémoire. C'est se souvenir ou ne pas se souvenir.
Alors ils se souviennent très, très intensément, puisque chacun se souvient non seulement de sa propre histoire personnelle, mais se souvient de l'histoire des autres. Et ce mélange est porté par des voix féminines dans tout 11 rêves de Sui. La plupart des personnages sont des femmes, ou finissent par être des femmes, puisque dans l'incendie, même le personnage qu'on retrouve, qui s'appelle Imayo Özbeg, qui est un garçon, un adolescent, se transforme en Rita Mivrakis, et donc devient une femme parce que ni le nom, ni l'identité, ni la mémoire personnelle, ni l'identité sexuelle n'ont de sens dans le malheur qui est symbolisé par les flammes.
J'aimerais bien, Antoine Volodine, qu'avant de nous quitter, on revienne à un livre signé Antoine Volodine, parce qu'il se trouve que ce n'est pas trois livres, c'est quatre en fait, qui paraissent en cette rentrée littéraire. Le quatrième est une réédition. C'est un livre intitulé Le Port, P-O-R-T intérieur, que vous aviez publié aux éditions de Minuit, et qui reparaît dans la collection de poche des éditions de Minuit, la collection double. Et dans ce roman, on retrouve la politique dont on a eu l'occasion de parler. Le parti politique ici est nommé le paradis, et il envoie des tueurs liquider une dissidente.
Il est nommé le paradis, il est également nommé grand-mère. Au cours de la narration, le nom change. Et effectivement, c'est un des moteurs principaux de nos histoires, cette affirmation de l'individu qui porte les mêmes valeurs que le parti, qui porte les mêmes valeurs que le dogme, mais qui est brisé par le parti. Alors bien entendu, c'est un renvoi permanent à l'histoire du XXe siècle et au stalinisme où les vieux bolcheviques, les bolcheviques étaient pourchassés plus que les véritables ennemis du peuple.
Donc on est toujours entre ruines et dictature, à la confluence de plusieurs totalitarismes.
Oui, c'est un des décors narratifs de base de notre écriture. C'est la raison d'être aussi, ce qui fait urgence dans ce que nous voulons dire, c'est une réflexion sur l'horreur du politique qui porte en lui des valeurs si fortes et si belles, et qui pourtant, dans la réalité, fait quelque chose d'abominable.
Et le port intérieur, alors
c'est... Alors, le port intérieur, c'est Macao. C'est à Macao que ce roman se passe. Et là, on touche à, d'une part, un espace de fiction sur lequel je suis revenu plusieurs fois.
Et
récemment, avec un livre qui s'appelle Macao. C'est un lieu qui m'est cher parce que j'y ai habité, parce que je trouve que au niveau de la fiction, tout y est possible. Je pense que ça fait partie des éléments autobiographiques dans cette construction de l'imaginaire qui est vaste et qui donc est porté par plusieurs voix. Mais dans le cadre de la voix de Volodine, on trouve des éléments autobiographiques qui sont transformés, qui sont filtrés, mais qui sont évidents parfois.
Je voudrais rappeler les titres de ces livres de la rentrée post-exotique dont il a été question dans Du jour au lendemain au cours de ces trois soirées. Il y a les livres signés Antoine Volodine, écrivain au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, et Le port intérieur aux éditions de Minuit dans la collection Double, de Lutz Passmann, Les aigles puent, c'est chez Verdier, et de Manuela Dreger, 11 rêves de suie aux éditions de L'Olivier. Du jour au lendemain, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.